Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur des attaques qui mettent en lumière les problèmes d'interprétation des formats de fichiers. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonjour.
Angèle Bertini.
Bonjour.
Et Vladimir Kola.
Bonjour.
Alors, Vladimir, tu peux peut-être nous faire un petit historique des attaques à base de format d'image avec des choses simples comme le SVG par exemple?
Oui, alors rapidement, il y a eu une attaque qui a été trouvée dans la nature il y a quelques mois, je crois que c'était en novembre donc de l'année dernière, 2016. Une attaque à base de fichiers SVG. Alors, pour rappel, SVG, ce sont des formats d'images vectoriels, ce qui fait qu'à l'intérieur, il y a du code qui permet de dessiner l'image. Et donc, qui dit code, dit aussi possibilité d'inclure du JavaScript. Et donc en fait, ce qui se passait, c'est que on pouvait recevoir un mail avec une image SVG ou aller sur un site web avec une image SVG, et ça exécutait du code, mais du code au sens JavaScript, c'est-à-dire du code qui restait quand même dans le navigateur. Et en fait, les criminels qui ont fait ça, leur objectif, c'était surtout en fait de rediriger l'utilisateur par rapport à son navigateur vers un site qui hébergeait donc des plugins, par exemple pour Chrome ou Firefox, en disant voilà, vous êtes obligé de télécharger tel plugin pour afficher le contenu. Et c'est en fait, là c'était en fait un vrai malware, et c'était juste un moyen d'infecter les postes avec un malware, parce que l'exécution de code était vraiment limitée au navigateur, donc finalement on pouvait pas faire grand chose, bon éventuellement récupérer des cookies, choses comme ça, mais c'était pas non plus prise de contrôle du poste. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait des tests avec tous les navigateurs, enfin sauf Opera, mais bon, et pareil, j'ai pas testé non plus Lynx. Et le seul navigateur qui n'exécute pas directement le code inclus dans l'image SVG, c'est, grande surprise, Internet Explorer. C'est le seul à afficher une petite alerte, une petite pop-up d'alerte disant attention, contenu bloqué, est-ce que vous voulez l'activer? Tous les autres exécutent directement le JavaScript, dont Edge, enfin Chrome et Firefox.
Mais Mario Heiderich avait beaucoup travaillé aussi sur le format SVG, il avait publié pas mal de vecteurs de cross-site scripting qui étaient basés sur des attributs SVG qui contenaient du JavaScript, justement, et qui étaient très très mal filtrés à l'époque par les différents WAF.
Après, c'est compliqué, comme justement, tu peux mettre du code. Alors en plus, si tu peux mettre du JavaScript, obfusquer du JavaScript, ça te permet d'avoir énormément de possibilités. Enfin, le JavaScript t'offre énormément de possibilités d'obfuscation, et ça devient très compliqué, en tout cas pour un WAF, de détecter quelque chose en ayant des performances acceptables pour avoir une expérience utilisateur intéressante.
Mais alors plus récemment, au mois de décembre, Checkpoint a fait toute une campagne de communication en disant qu'ils avaient détecté une attaque redoutable qui se propageait via Facebook Messenger et LinkedIn. Alors évidemment, en l'absence de détails techniques, c'était un petit peu difficile de savoir si c'était du FUD de vendeur ou si c'était s'il y avait vraiment un ver qui se propageait à échelle massive sur Facebook. Et apparemment, là, le fin décembre, ils ont mis à jour leur blog où ils ont publié pas mal d'éléments techniques sur ce qu'ils ont vu. Donc, on va peut-être pouvoir commenter un petit peu le détail de cette attaque. Vlad, tu t'as regardé?
Oui. Alors, c'est vrai qu'au début, il y avait très très peu d'informations. Donc, on pouvait juste présumer de ce qu'était l'attaque. On pensait en gros que c'était du classique, parce qu'il parlait d'HTA, donc HTML application, l'espèce de format pourri abandonné par Microsoft, parce que impossible à sécuriser pour pouvoir réellement exécuter du code. Donc en fait, c'était apparemment une image JPEG qui se transformait par magie en un fichier HTA et qui était transféré par le chat de Facebook, c'est-à-dire quelqu'un vous envoyait apparemment une image, mais quand vous cliquez dessus, c'était un HTA qui s'exécutait, et donc là c'était une véritable exécution de code sur le poste. Et donc il y avait peu de détails, on supposait que c'était, enfin moi j'avais supposé que c'était juste l'inclusion de code HTA dans une image JPEG. Donc j'avais fait une démonstration à l'OSIR, on peut la voir sur la vidéo du mardi de l'OSIR de décembre, où en fait on prend une simple image JPEG valide, on ajoute un peu de code HTML à la fin, et quand on le renomme en HTA, bah, ça s'exécute. Donc pour Ange, ça fait une espèce de format polyglotte, enfin fichier polyglotte. Et alors en fait c'était à peu près ça, mais avec plusieurs subtilités. Donc la première, c'est qu'ils uploadaient l'image sur Facebook, et Facebook, comme beaucoup de grands éditeurs de sites web, réencode l'image. Donc en fait, eux ont trouvé un moyen de retrouver l'URL de la véritable image uploadée, donc l'image originale dans laquelle ils avaient leur payload. Ensuite, autre astuce, c'est qu'apparemment sur Facebook, quand on met point d'interrogation DL égale 1 à la fin d'une URL d'une image, on télécharge l'image au lieu de l'afficher. Et le seul trick vraiment intéressant, c'est un contournement de Chrome Core WebKit, où en fait, en ajoutant point virgule à la fin du chemin de l'image, et ensuite un nom de fichier, on peut modifier le type et le nom du fichier que l'utilisateur va télécharger. C'est-à-dire qu'on fait machin.jpeg, après un petit trick slash virus.exe, point virgule, point, et là, on va télécharger virus.exe, c'est-à-dire que le navigateur va transformer l'image JPEG en un .exe. Et en fait, c'est le trick qui a été utilisé, donc cette petite combinaison d'astuces permet de transformer une image JPEG en fichier HTA que l'utilisateur télécharge et exécute.
Oui, parce que si tu fais, tu peux pas faire une image qui soit à la fois un .exe et un JPEG. Donc en fait, si tu renommes virus.exe et que tu cliques dessus, il se passe rien, puisque c'est pas un .exe valide. Oui, par contre, si tu fais un .hta...
Ouais, c'est pour ça que l'astuce, c'est d'utiliser un HTA qui permet d'exécuter du code. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire appel à des objets COM ou WMI et exécuter du code, aller chercher un PowerShell quelque part et l'exécuter.
Et ça demande quand même une interaction utilisateur, donc c'est pas non plus... c'est pas un verre qui se propage sur le chat, quoi. C'est un fichier que tu récupères dans tes téléchargements et sur lequel tu vas cliquer.
C'est ça, oui, c'est pas automatique. C'est pas comme les antibiotiques. Non, c'est comme les antibiotiques.
Bon, mais alors c'est pas en fait, si on fait un peu l'archéologie des attaques à base de fichiers polyglottes, c'est pas le seul cas intéressant, puisque finalement il y a des choses dont on n'avait pas parlé à l'époque, mais qui sont un peu les précurseurs de ces attaques, c'est Rosetta Flash et Coma Caméléon. Alors là c'est un petit peu différent, c'est plus on va dire, c'est plus basé sur des astuces web. Mais dans le cas de Rosetta Flash, par exemple, qui est une attaque qui remonte à un peu près un ou deux ans, l'idée, c'était de faire un fichier Flash valide, mais qui ne contienne que des caractères alphanumériques. Et donc, qui, en fait, contourne à peu près tous les filtres. Voilà. Et en fait, c'est possible, puisque le Flash, il y a plusieurs entêtes dans Flash, il y a SWF ou CWF, et le CWF, ça veut dire que c'est du compressed, je sais plus quoi.
Du flûte.
Oui, enfin, je sais plus ce que veut dire le W et le F. Parce que le SWF, c'est shockwave quelque chose, et le CWF, c'est compressed quelque chose. Mais je sais plus ce que veut dire le W et le F.
Je pense qu'ils ont juste compressed, et puis ensuite ils ont web file, enfin, ils ont pas changé le. D'accord. Ils ont changé une lettre et gardé le reste. Parce qu'il y a aussi le ZWF de LZMA. Et c'était ça aussi, enfin, ça aussi, on peut exploiter un peu plus aussi. Mais pas uniquement, pas en ASCII pur comme Rosetta Flash.
Parce que donc l'idée c'est de jouer avec la compression pour faire un payload qui soit entièrement alphanumérique, enfin entièrement imprimable, on va dire. Je crois qu'il était carrément alphanumérique dans le cas de Rosetta Flash d'ailleurs.
Je pense qu'il était complètement alphanumérique.
Et qui, une fois décompressé, en fait, va être un objet Flash valide. Alors en soi, c'est quelque chose que les gens se doutaient que c'était possible, mais bon, c'est pour la première fois, c'est Michel Espagnolo qui a fait un preuve de concept qui fonctionnait réellement. Mais là où c'est intéressant, c'est parce qu'en fait, la manière dont le navigateur interprète le contenu va en fait dépendre du type qui est envoyé par le serveur. Alors, petit détail d'implémentation. Donc, quand on envoie une image, quand on envoie un objet à un navigateur web, en général, il y a un header qui s'appelle le content type. Un header HTTP qui indique, en fait, si ça va être une image, un fichier HTML ou autre. Internet Explorer fait un truc en plus qui s'appelle content sniffing. C'est-à-dire qu'il va pas tenir compte, dans tous les cas, de l'entête qui est renvoyée par le serveur. Mais il va essayer de lui-même d'interpréter le contenu de l'objet pour voir si c'est quelque chose qu'il connaît. Donc ça, évidemment, c'est catastrophique en termes de sécurité, puisque ça permet d'avoir un serveur qui renvoie un type content type image JPEG, par exemple, alors que l'objet est effectivement un PE ou un HTA, et Internet Explorer va s'en rendre compte et l'exécuter comme un HTA. Ça, c'est un problème de sécurité qui n'affecte pas les autres navigateurs. Par contre, du coup, il y a un entête HTTP qui a été ajouté, qui est content type no sniff, qui permet de dire au browser en fait de ne pas essayer de, enfin de ne pas appliquer cette fonction de type sniffing. Donc ça pourrait résoudre le problème, sauf que il y a un certain nombre de formats qui sont interprétés par des plugins du navigateur. Donc typiquement le Flash ou le PDF sont souvent interprétés par des modules complémentaires qui sont chargés dans le navigateur, et eux en fait n'ont pas du tout la même logique que celle du navigateur. Et donc en fait si dans les 1024 premiers octets d'une réponse web on envoie quelque chose qui ressemble à un objet Flash, en fait le plugin Flash installé dans le navigateur va prendre la main sur la réponse et dire moi je traite ça, c'est du Flash. Et donc en fait ça permet d'abuser un certain nombre de mécanismes de sécurité. Donc en fait par exemple en utilisant des endpoints JSONP, on peut émettre à destination du client du contenu qui est, on va dire, contrôlé, dont les premiers octets de la réponse sont en général fixes parce que ça va être du JSON, donc il va y avoir des accolades, etc. Mais si dans les 1024 premiers octets il y a cette séquence CWF qui apparaît avec un fichier Flash valide, alors le navigateur va se mettre à interpréter la réponse JSON comme étant un objet Flash. Et donc, ça ouvre la voie à toutes les failles qu'on peut connaître dans l'exploitation du plugin Flash. Voilà, c'est une explication un peu longue de ce que c'est que Rosetta Flash, mais c'est pour expliquer que, basé sur ces mécanismes de contournement en fait, des types de fichiers permettent de contourner les sécurités du navigateur web et d'aller pouvoir taper derrière des plugins qui vont faire leur propre sauce par rapport au flux qui est reçu. C'était clair, mon explication ou...
Moi, j'ai trouvé ça clair, oui. Mais ça veut dire que Rosetta Flash, c'était limité uniquement à Internet Explorer ?
Non, c'était limité à tout navigateur qui charge un plugin Flash. Donc, typiquement, Firefox aussi. Pour avoir Flash sous Firefox, tu vas télécharger le Flash version NPAPI. Du coup, tu as une extension dans Firefox qui est Flash, et du coup, qui inspecte ton trafic. Et quand il voit passer quelque chose qui ressemble à du Flash, indépendamment du content type retourné par le serveur, il va commencer à l'exécuter comme du Flash. Voilà, il y a une attaque complètement similaire sur le principe, mais Ange, tu vas peut-être en parler parce que tu connais mieux que moi. C'est une attaque plus récente qui s'appelle Coma Chameleon, qui, elle, en fait, se base sur le plugin Acrobat Reader pour les PDF et pas pour les Flash.
Effectivement, là aussi, on va essayer de... via Acrobat Reader, PDF a la merveilleuse possibilité d'avoir du JavaScript. Et le problème, c'est que on ne peut pas passer un PDF a priori qui tienne sur une seule ligne, parce que le PDF impose des retours de la ligne dans chaque objet, vers la fin de chaque objet. Et donc, ça semblait impossible de faire un PDF qui tenait en une seule ligne, et a fortiori un PDF contenant du JavaScript donc actif, donc potentiellement malveillant. Et donc, l'astuce surprenante, c'est que d'habitude, on a tendance, quand on fait des manipulations, à corrompre le PDF et à leur enlever des informations, et Adobe s'en sort très bien comme ça. Mais là, au contraire, c'était d'aller rebrousse-poil, au contraire, de lui fournir un PDF parfait. Et une fois que les informations qu'on peut habituellement corrompre sont dans leur état parfait, il se trouve qu'Adobe, à ce moment-là, ça lui importe plus qu'on y ait des retours à la ligne qui sont a priori présents dans tous les PDF qu'on trouve sur Internet, malveillants ou propres. Et donc, c'était effectivement, au niveau polyglotte, le cœur de l'attaque Coma Chameleon, c'était de pouvoir effectivement créer un PDF valide contenant du JavaScript qui tenait sur une seule ligne, donc injectable en paramètres d'une requête web et des choses comme ça.
Et du coup, qui permet après d'aller déclencher des failles dans le plugin de lecture PDF au mépris des filtres qui auraient pu se trouver entre les deux.
Voilà, vive le système de plugin.
Ouais, mais c'est beau quand même. C'est-à-dire qu'un petit peu comme l'algorithme de compression Deflate tout à l'heure, où j'ai plus le nom de la personne, avait réussi à ne faire une compression qu'avec un résultat sous forme de caractères et chiffres. Là, c'est la même chose. C'est qu'il y a quand même eu l'exploit de réussir à faire un PDF uniquement sur une seule ligne.
Oui, exactement. C'était a priori impossible parce que je dirais que exactement comme un Flash qui ne contient que des chaînes, donc minuscules, majuscules et les chiffres, vraiment très strict. Ça s'est jamais vu, quoi. A priori, si on voit pas le moindre caractère autre que cela, on pense, c'est hors de question que ce soit un Flash. Donc c'est vraiment, ça dépasse l'entendement et les limites, même si évidemment les retours à la ligne, je pense que pour beaucoup de monde qui n'ont pas l'habitude de regarder à l'intérieur des PDF, ce sera pas trop choquant, mais je considérais ça comme impossible, quoi. Donc c'était bien trouvé, et pourquoi Adobe l'accepte uniquement dans ce cas-là, Va savoir, Charles.
Enfin, il y a quand même des formats de fichiers qui sont mieux conçus que d'autres. Dans le cas de Flash, il y avait quand même une intuition. Il me semble qu'il y avait ce gars de Facebook, Alok Mekanjani, qui avait eu l'intuition un an avant que c'était possible, mais simplement, c'était pas du tout évident à mettre en place, parce que dans Flash, il y a deux choses. Il y a la compression, mais il y a aussi un CRC, enfin, c'est pas un CRC, mais disons, il y a un code de vérification d'intégrité sur 16 bits à la fin. Donc, en fait, il fallait faire un objet compressé dont le code d'intégrité était lui-même alphanumérique. Et donc, c'était un peu pénible, et donc personne s'y est collé. Voilà. Mais il y a des formats de fichiers qui sont conçus défensivement. Alors, je sais plus, quel format d'image où, en fait, il y a un retour à la ligne dans l'entête. Ah non, c'est dans le bytecode Python. Dans les premiers octets d'un fichier PIC, PYC, en fait, il y a un retour à la ligne de telle sorte que si tu ouvres le fichier dans un éditeur EXA et que tu le sauvegardes, le retour à la ligne va être remplacé, en général, par la plupart des éditeurs texte. Et donc, du coup, le fichier sera corrompu, et donc, voilà. Il y a des gens qui essayent de faire des formats où tu sais d'emblée que ça pourra pas être alphanumérique, ou que si tu essayes de manipuler, il va se passer quelque chose qui fait que le format est invalide.
Oui, justement, c'est le but de la signature qui débute à tous les fichiers PNG, où il y a de l'ASCII avec le bit de poids fort qui est mis. Ensuite, il y a un caractère escape. Donc, la signature est là aussi pour détecter potentiellement le style de corruption dans les transferts de fichiers, les plus classiques. Mais dans le cas de Rosetta Flash, la checksum c'était que de la DR32, donc c'était, je crois, très facile à brute forcer quand même. C'est pas très complexe quand même non plus à casser, quoi. Enfin, à trouver une version uniquement alphanumérique de la checksum, quoi. Elle est très légère, quoi.
Mais c'est étonnant quand même qu'aujourd'hui on ait encore ces problèmes de format de fichier et qu'il n'y ait pas un standard d'entête de fichier avec des magic bytes, un truc classique où tu sais directement ce que c'est comme format de fichier. Nico, tu répondrais, il y a 50 normes, créons une 51e norme pour les unifier toutes. Mais c'est étonnant, ouais, qu'il n'y ait pas ce genre de choses, parce que ça pose énormément de problèmes.
Mais si, ça existe.
Et tu le démontres, toi, Ange.
Ouais, mais par exemple, XML, par exemple, Corba, enfin, je veux dire, tout le monde a inventé des conteneurs universels qui permettaient ASN1. Ouais. ASN1, c'est un système de représentation qui est censé pouvoir représenter n'importe quel objet existant dans le monde.
Ah oui, le problème, c'est que c'est pas utilisé. Enfin, par tout le monde. C'est pas vraiment standardisé. Enfin, plutôt, pas standardisé, plutôt généralisé.
Bah, parce que les formats de fichiers antérieurs, t'as des tonnes de formats d'images qui datent des années 80 et qui seront jamais. Plus personne ne travaille dessus et il faut maintenir la compatibilité avec ces formats. Je crois que le pire exemple, c'est le JPEG, où aujourd'hui, il n'existe pas de standard JPEG, en fait. L'implémentation de référence est celle de la libjpeg version 6. Et si tu fais pas une implémentation qui est compatible avec celle-là, et ben, en fait, tu pourras pas lire tes images sur un appareil photo ou sur une imprimante bas de gamme, parce que, en fait, si tu suis le standard, t'es pas compatible avec la réalité des images qui sont produites aujourd'hui.
Enfin, même PNG, il y a eu pas mal d'attaques sur les PNG où dans la taille du PNG, tu mets je sais plus quelle taille qui fait que ça fait anti-slash étoile pour faire un commentaire PHP, ce qui fait que tu commentes en fait au sens PHP toute l'image et à la fin tu peux rajouter du code PHP et ce qui fait que tu uploads l'image PNG sur un site et après tu peux l'inclure dans un PHP et exécuter du code PHP.
Non, mais ça c'est le problème de PHP. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème de PNG, c'est un problème de PHP. PHP, tu lui passes slash proc même, et il va scanner toute la mémoire jusqu'à ce qu'il trouve un truc qui ressemble à PHP, et il va commencer à l'exécuter. Donc, oui, c'est l'interpréteur qui...
Ouais. Bah, la même chose pour le HTA dont on parlait tout à l'heure. Tu lui mets n'importe quoi, il va l'interpréter, enfin, il va chercher le début d'un entête HTML pour exécuter le code qui se trouve après.
Tiens, je sais pas si ça t'intéressait, Nico, qu'on mentionne, parce que souvent les collègues pensent que étant fan de polyglotte, c'était un peu. C'était moi qui en faisais toujours, etc. Mais ils savent pas que les premiers. Justement, là, voilà, la question de base, c'est est-ce que les polyglottes, en fait, c'est une véritable attaque, etc. Et la plupart des gens qui me demandent ça, en fait, savent pas que la première occurrence des polyglottes, c'était le GIFAR en 2008, et c'était vraiment, c'était dans la nature, et ça pornait des gens avec ça, quoi. Donc, le polyglotte, ça a été vraiment inventé par des criminels, comme disait Vlad tout à l'heure. Ça a été, le polyglotte, ça a été attaqué, utilisé dans la nature pour attaquer des gens et par des criminels en 2008. Il y a même une page Wikipédia pour ça, quoi.
Alors, tu peux préciser que le GIFAR, c'est un fichier qui est à la fois un GIF et un JAR. Parce qu'en fait, le JAR, c'est du zip, et donc le zip, l'entête, enfin, l'entête, la table des matières est à la fin du fichier.
Voilà.
Donc, tu peux faire un image GIF ou une image PNG avec un JAR à la fin. PNG, je sais pas, parce qu'il y a un checksum. Et effectivement, c'était la grande époque où tous les gens se faisaient poney avec des plugins Java pas à jour, et donc il suffisait d'arriver à mettre une applet sur un site web pour router la planète.
Ouais, parce qu'en fait, Ange, toi, tu le démontres à chaque fois là, avec tous tes fichiers polyglottes où c'est à la fois un PDF, un exe, une image, un zip,
de la
musique. Enfin, c'est comment tu fais après pour savoir ce qu'est un fichier justement?
Bah moi, j'ai l'habitude d'ouvrir un éditeur hexadécimal justement. J'ai vraiment l'habitude. Voilà. Et déjà, il n'y a rien de. Déjà, les quelques parseurs qui essayent d'avoir des visions visuelles, enfin un peu bien fichues, genre hachoir, ils sont quand même bien limités à la doc, ils vont pas dans les cas compliqués, etc. C'est, ça intéresse, parser des fichiers de façon un peu stricte, ça intéresse a priori personne. Les IDEA se développent et eux, ils essayent de montrer la représentation du code avec la mémoire, etc. Mais disséquer de façon un peu intelligente la structure d'un fichier et dire à tel octet il sert à ça, ça va jamais très très loin, quoi. Nico sourit beaucoup.
Oui, non, mais parce que je pense à l'ANSI, tu sais, avec Parsifal, en fait, ils ont un générateur de format de fichier en OCaml qui est censé être extrêmement robuste et ça les intéresse beaucoup. Et en particulier, ils font du parsing de certificats et de choses comme ça, enfin, des choses vraiment compliquées, de la SN1 et autres, en OCaml. Mais effectivement, ça n'a jamais atteint le grand public, on va dire.
Non, mais déjà, effectivement, c'est pas le langage le plus forcément le plus intéressant pour tout le monde. Mais en plus, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, on s'en fiche que leur parseur soit plus robuste si le parseur standard qui est utilisé par tous les OS ou par même juste Edge, par exemple, donc ou Chrome, il a un certain bug, il faudra que tous les parseurs s'alignent. Et voilà, c'est lui qui définit le standard, quoi. Donc, faire un parseur robuste pour et suivre la lettre, c'est bien, ça permet de trouver des trucs, mais tant que c'est pas lui le plus utilisé, le standard, il n'est pas défini par les specs, quoi. Il est défini par l'existence de la loi du plus fort, quoi.
Oui, c'est vrai, en plus, on l'avait vu avec les fichiers RTF récemment dans des attaques où toutes les solutions de sécurité parsaient le début des fichiers RTF et cherchaient je sais plus quelle signature. Et des hackers ont trouvé une astuce en mettant je sais plus quel caractère spécifique qui faisait en gros considérer que le fichier n'était pas un RTF et qui permettait de contourner toutes les solutions de sécurité qui détectaient des RTF et ensuite essayer d'en sortir la macro, les choses comme ça. Et non, c'était pas les macros, c'était exécution de code. Et eux avaient trouvé un moyen de rendre le fichier valide parce que le lecteur, je sais pas si c'était WordPad ou Word Classic, était je sais pas, plus flexible et donc acceptait plus de choses. Je crois que c'est au niveau de la numéro de version du RTF, je sais plus ce qu'il y avait dans l'entête, mais c'est ça qu'ils avaient changé.
Oui, c'est toujours le même genre de truc. C'est toujours le même genre d'astuce. Voilà quoi, les gens. Les parseurs prennent des largesses et après les fichiers s'adaptent ou non et après voilà quoi, tout le monde, la plupart des développeurs pensent que les spécifications suffisent et les spécifications sont même pas à jour et donc c'est le parseur, la vie du parseur, donc comme disait Nico, libjpeg qui définit le format, le format de fichier lui-même, quoi.
Bon, alors en conclusion, les formats de fichiers, c'est un échec.
Ange.
Ben, il y a pas mal de choses à améliorer, disons. Justement, j'ai l'intention de m'y remettre un peu, donc je vais essayer de faire bouger les choses. Et parce que sinon, effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, c'est des formats de fichiers, c'est pas les spécifications qui expliquent quoi que ce soit, c'est le parseur le plus répandu, c'est la loi du plus fort qui définit là où tous les autres doivent s'aligner, quoi. Et si des criminels, ils évitent des filtres. Où ils font des fichiers qui sont considérés comme valides, C'est ce parseur le parseur le plus fort qui définira si les utilisateurs finaux se font infecter ou pas, quoi. Et tous les outils de sécurité, toutes les solutions de sécurité, ben, elles n'y verront rien.
Attention, hein, si tu dis du mal des antivirus, tu ne vas pas te faire des amis.
Ben, ils vont en prendre plein la gueule, si tu veux mon avis, mais ils ne savent pas encore ce qui leur attend.
Ils en prennent déjà plein en parsant le contenu des fichiers dans le kernel. Et... Enfin, bon.
Oui, mais tu attends de voir ce que je prépare. C'est ça que je voulais dire.
Ah, je suis impatient.
En 2016, je faisais du dessin. En 2017, je vais faire jouer avec le format de fichiers.
Ok.
Bon, ben, ça me semble une excellente conclusion.
Oula. si tu veux.
Plutôt un teasing pour une prochaine émission.
Ouais, on verra dans un an.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura plu et nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt.
Au revoir.